Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Today is not a win for any individual or cause. It's a win for parliamentary sovereignty.
Bonjour à tous. Atmosphère de crise politique. Une fois de plus, a-t-on envie d'ajouter à Londres, alors que les députés reprennent le chemin du Parlement. La Cour suprême a en effet estimé hier que la suspension de la Chambre des communes décidée par le Premier ministre était illégale, en clair contraire aux principes démocratiques du pays, un camouflet pour Boris Johnson, et une décision, Julia Trangeval, qui est l'œuvre de deux femmes, Lady Hale, la présidente de la Cour suprême, et Gina Miller, femme d'affaires pro-européenne, qui a par deux fois saisi les tribunaux pour que ce Brexit se fasse avec la consultation du Parlement.
Oui, l'une et l'autre ont aussitôt été étiquetées ennemies du peuple par les partisans du Brexit, et Gina Miller, richissime femme d'affaires, la cinquantaine, y a aussi gagné des injures racistes. Elle est originaire de l'ancienne Guyane britannique et des menaces de mort. Pas de quoi faire reculer cette personnalité flamboyante. C'est la fille d'un haut magistrat. Sa famille a connu des déboires de fortune. Elle était mère célibataire, divorcée deux fois, et elle a fait mille métiers. Elle a été serveuse, mannequin, a fait une apparition dans un générique de James Bond avant de créer son propre fonds d'investissement et de devenir millionnaire. À la City, elle milite pour plus de transparence. C'est aussi de la transparence qu'elle réclame concernant le Brexit. Elle lance ainsi un site internet baptisé Mettre fin au chaos pour fournir des informations fiables sur le sujet et décide d'aller en justice donc par deux fois pour que le processus de sortie de l'Union européenne se fasse dans les règles. Et par deux fois, elle a gagné. Elle est devenue aussitôt une icône pour les pro-européens. Les Brexiteurs, eux, la surnomment la veuve noire.
Une araignée donc, et on parle beaucoup d'araignée dans ce dossier, Juliette.
Oui, l'araignée est devenue l'image emblématique de la décision rendue lundi par Lady Hale, la présidente de la Cour suprême britannique, arbore une grosse broche araignée sur son épaule droite en déclarant illégale la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson. Un énorme bijou qui tranche avec l'apparence modeste, un peu austère, de la magistrate. Brenda Hale est une fille d'enseignant, passée par l'école publique, très éloignée de l'aristocratie judiciaire britannique. Et cette brillante juriste a longtemps enseigné le droit, puis est devenue la première femme nommée à la Commission des lois d'Angleterre et du Pays de Galles, la première femme nommée Lord Juge, et en septembre 2017, la première femme à être nommée à la tête de la Cour suprême. Elle doit prendre sa retraite l'an prochain, à 75 ans, touchée par la limite d'âge, en gardant son grain de fantaisie qu'elle affiche dans le magazine Vogue ou quand elle participe à une émission de cuisine à la télévision Masterchef, et que le très sérieux Financial Times n'hésite pas à appeler de manière assez improbable la Beyoncé du système judiciaire.
Merci Julia Trangeval.
I'm a seafarer, a captain, and my place are the oceans.
Et l'on reparle à nouveau d'un plan de répartition des migrants en Europe. Les quatre ministres de l'Intérieur qui se sont réunis à Malte cette semaine l'ont remis sur la table. Le ton change, côté italien notamment, avec la nouvelle coalition au pouvoir. On est loin des outrances de ces derniers mois qui avaient vu le blocage des ports italiens et l'arrestation des capitaines de navires sauvant des migrants. Deux jeunes femmes avaient alors fait figure d'héroïnes, Carola Rackete et Pia Clem. Cette dernière, capitaine du Sea-Watch 3, sort ces jours-ci un livre en Allemagne. Bonjour Julien Méchaussy.
Bonjour Frédéric.
Vous avez rencontré Pia Klemp, qui est sous la menace de la justice. Son procès pourrait se tenir dans les prochaines semaines. L'Italie l'accuse de suspicion d'aide et de complicité à l'immigration illégale. Elle risque 20 ans de prison. Pourtant, elle écrit que son combat n'est ni fini ni repoussé.
Oui, et ce livre, dont le titre pourrait se traduire par « Allons danser avec les morts », est une manière de poursuivre son combat. À l'image de nombreuses autres ONG, le bateau de Pia Klemp a été mis à quai par les autorités italiennes, et lui est aujourd'hui impossible de repartir en mer. Et c'est ce qui est le plus difficile à comprendre, malgré les plus de 5000 vies qu'elle a sauvées au cours de ses différentes missions, à bord des bateaux Juventa et Sea-Watch 3. C'est elle qui est aujourd'hui criminalisée. Elle risque non seulement 20 ans de prison, comme vous l'avez dit, mais aussi 15 000 euros d'amende par personne sauvée dans un procès qui pourrait se tenir en Sicile lors des prochaines semaines. Et si la jeune femme de 36 ans refuse l'étiquette d'héroïne, elle est cependant consciente que donner un visage à ce combat, comme le fait également Carola Rackete, permet de bien plus sensibiliser les gens que des chiffres et des statistiques, comme elle nous l'explique.
C'est actuellement très difficile de sortir en mer, mais nous avons besoin d'être écoutés, de rendre publique cette violence étatique, mais surtout de la solidarité de l'opinion publique, car c'est aussi une forme de protection pour nous. Nous avons besoin d'argent pour les procès et les gagner. Nous devons montrer que nous sommes une toute petite pierre dans un système bien plus grand, avec des murs bien plus hauts que ce que nous pouvons voir. Un système violent, qui exclut, qui se renferme sur lui-même et laisse les gens se noyer.
Et ce livre, Julien, est un ouvrage dans lequel transparaît toute la colère de la capitaine du Sea-Watch 3.
La colère, mais aussi le désarroi face à ce qu'elle a vécu en Méditerranée, une mer qu'elle qualifie dans son livre d'étang de l'absurde. Elle raconte notamment cette scène. Les gardes-côtes italiens lui signalent des embarcations non loin des côtes libyennes. Les Italiens lui disent de se dépêcher car un bateau des gardes-côtes libyens est déjà en route. Et une fois arrivé sur place, Pia et son équipage voient des dizaines de personnes dans l'eau, des morts. Lorsque les Libyens s'approchent, au lieu de les aider, ils braquent Pia avec leurs armes et l'empêchent de sauver ces personnes. Les Libyens font alors monter de force les migrants encore vivants sur leur bateau pour les ramener en Libye, où les attendent des conditions de vie épouvantables. Et c'est ce type d'expérience qui lui font écrire que la Méditerranée est devenue une zone de guerre.
Et ce système, pour reprendre le terme de Pia Klemp, n'hésite pas à criminaliser celles et ceux qui s'engagent pour sauver des vies. Pia Klemp, comme Carola Rackete, a été attaquée directement par l'ancien ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Oui, on connaît la rengaine des responsables politiques européens, membres de partis populistes et racistes. Les personnes comme Pia Klemp feraient le jeu des passeurs, voire seraient responsables des milliers de personnes qui perdent chaque année la vie en tentant de rejoindre les côtes européennes. Mais selon Pia Klemp, il serait dangereux de penser que la situation va s'améliorer avec le seul départ d'un Matteo Salvini.
Bien sûr que Salvini est un fasciste qui a aggravé la situation lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et a encore plus mis le feu aux poudres. Il y a tellement de personnes qui se solidarisent avec les réfugiés qui sont ensuite criminalisés. Il serait très dangereux et surtout très naïf de penser que tout est de la faute d'un Salvini et qu'après lui, tout rentrera dans l'ordre, que tout serait uniquement la faute d'un fasciste malade.
Et en attente de son procès et surtout de pouvoir sauver à nouveau des vies en mer Méditerranée, Pia Klemp est actuellement en tournée en Allemagne avec son livre pour continuer d'attirer l'attention sur le drame des migrants à travers de nombreuses lectures publiques.
Merci Julien et à bientôt sur Accent d'Europe.
Un provvedimento disumano perché eliminando la protezione umanitaria toglie ogni residuo di comprensione nei confronti del dramma delle persone che sono immigranti.
Et en Italie, on l'a dit, la fin de la coalition pouvoir, le départ du parti xénophobe de la Ligue et de son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, inaugure une nouvelle approche de la politique migratoire, en tout cas au niveau national, car au niveau régional, certaines villes résistent depuis longtemps. C'est le cas à Palerme, en Sicile, où le maire tient un discours en faveur de l'intégration des migrants. Cécile de Barge l'a rencontré.
Dans le contexte italien où les politiques sont au mieux frileux, au pire ultra-virulents sur les questions migratoires, le discours de Leo Luca Orlando, le maire de Palerme, détonne.
Quand on me demande combien il y a de migrants à Palerme, je ne réponds pas 80 000 ou 100 000. Je réponds aucun, parce que ceux qui vivent à Palerme sont palermitains. Et je ne fais aucune différence entre ceux qui y vivent et ceux qui y sont nés. Et ça, c'est la clé de la sécurité.
Car, dit-il, si chacun se sent chez soi, il protégera sa ville. Cette phrase, il la répète depuis des années, et depuis 2015, elle est devenue concrète à travers l'expérience de la charte de Palerme, dont l'objectif est l'intégration des migrants. Dans un petit texte de 10 pages, il définit les contours de la mobilité internationale, où il réaffirme tous les droits fondamentaux qu'il estime incompressible. Tous les résidents de la ville, par exemple, quelle que soit leur origine et leur statut, peuvent voter aux élections municipales. Un pas nécessaire, selon Leo Luca Orlando, qui imagine un changement radical en termes de migration.
Dans le futur, on aura encore des permis de séjour. Mais de quoi on parle là? La mobilité est un droit humain. Personne ne peut m'empêcher de bouger et décider où je dois vivre, mourir ou me faire tuer.
un discours à contre-courant de la fermeture des ports décrétée par l'ancien gouvernement formé par la Ligue et le mouvement 5 étoiles, deux partis qui pendant 14 mois ont fait de la fermeture des frontières italiennes une ligne directrice de leur politique. À plusieurs reprises, Leo Luca Orlando a réaffirmé que le port de Palerme était ouvert aux bateaux de secours des ONG, des propos qui n'ont toutefois pas suffi pour contrer les positions gouvernementales sur le sujet et faire accoster les bateaux bloqués en mer. Au mois de janvier, le maire de Palerme a aussi été le premier en Italie à s'opposer au décret sécurité de l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui interdisait l'inscription au régime d'état civil à une partie des détenteurs de la protection humanitaire ou aux demandeurs d'asile, les contraignant à la clandestinité. Depuis, et en dépit de ce décret, il a inscrit plus de 600 d'entre eux sur les registres de la ville, leur permettant d'être en situation régulière.
Culturellement, Palerme est une ville alternative au populisme. Car qui est le populiste? C'est celui qui n'a pas conscience du temps, qui pense que tout peut changer tout de suite. Moi, en 1980, devant le corps de l'homme politique Pier Santi Mattarella, tué par les mafieux et les politiques, si j'avais dit « on va libérer Palerme de la mafia en 3 mois », ça aurait été populiste et stupide. Ce dont on a besoin, c'est de récupérer la dimension du temps.
La référence au passé mafieux de la ville est loin d'être anodine, car pour Leo Luca Orlando, qui en est à son 5e mandat non consécutif et connu pour son engagement contre la mafia, c'est la raison pour laquelle la ville, pourtant en proie à des difficultés économiques et sociales importantes, n'a pas cédé aux sirènes du populisme.
La honte de la mafia nous a amenés à être plus en avance que dans d'autres endroits qui n'ont pas connu cette tragédie. Aujourd'hui, dans un monde qui piétine les droits de l'homme, nous, à Palerme, on est en train de construire un nouvel humanisme.
Leo Luca Orlando, qui avait vivement critiqué le gouvernement précédent, a en revanche salué les avancées obtenues lors du mini-sommet de Malte. Pour lui, l'Italie retrouve enfin sa crédibilité internationale.
Et la rentrée, ce n'est pas seulement pour les ministres de l'Intérieur européens, mais aussi pour les élèves en Pologne. Et autant dire que ça se passe mal. Le gouvernement a lancé dans l'urgence une vaste réforme, autant dire un grand chambardement. Le collège a été supprimé, l'école primaire et le lycée rallongé pour compenser. Résultat, les lycées accueillent beaucoup plus d'élèves que l'année dernière. Manque de salles, couloirs bondés. La situation est chaotique, comme l'a constaté Thomas Giraudeau dans des établissement de Varsovie.
À l'ouest de la capitale, le lycée Sniadecki, son directeur Martin Konrad Jaroszewski, subit de plein fouet la suppression du collège. Avec le passage de 3 à 4 ans de lycée, il garde les étudiants plus longtemps. Ils étaient 400 l'an dernier, ils sont 640 en cette rentrée.
Le système précédent avec l'école primaire, le collège, le lycée était bon. Les élèves au collège avaient de très bons résultats. Selon moi, la suppression du collège n'a pas été menée pour le bien de l'éducation. Les élèves qui ont fini l'école primaire et arrivent directement au lycée. Ils ne sont pas préparés du point de vue mental. Vraiment, je ne vois aucune conséquence positive à cette réforme.
D'autres directeurs comprennent le rallongement du lycée mais n'approuvent pas la méthode. Joanna Kiaubasa dirige le lycée Hoffman au centre de Varsovie.
Ça fonctionnait comme ça il y a 20 ans. Il y avait 4 ans de lycée comme depuis cette rentrée. Selon moi, c'est mieux pour les élèves. Ils ont plus de temps pour apprendre, pour se préparer aux épreuves de la matura, l'équivalent du bac. Par contre, cette réforme a été introduite trop rapidement, cela aurait pu se passer plus calmement.
Pour les partisans comme pour les critiques du gouvernement, cette réforme complète de la scolarité dans l'urgence reste une énigme. Et ce sont les élèves qui en font les frais. Jusque l'année dernière, le lycée Hoffman rassemblait à la fois un collège et un lycée séparés entre eux. Avec la suppression du collège, le lycée occupe aujourd'hui tous les bâtiments. Du coup, les trajets sont plus longs entre les salles, les élèves souvent en retard. Mateusz est en terminale.
Bien sûr qu'il y a des changements par rapport à l'année dernière. Il y a beaucoup plus d'élèves, plus de classes. Et du coup, il y a des embouteillages dans les couloirs. Même ici, dans ce hall, on doit attendre quelques minutes pour pouvoir se rendre quelque part. L'année dernière, cette école était assez vide parce que c'est un grand bâtiment. Aujourd'hui, elle est pleine.
Retour au lycée Sniadecki, le directeur Martin Konrad Jaroszewski avait 14 classes l'an dernier. Il en a 22 aujourd'hui, alors il a fallu faire quelques travaux.
Toutes ces salles dans ce couloir étaient inutilisées. On a été obligé de tout rénover, acheter de l'équipement, des meubles, donc les ordinateurs, les chaises, les tables et aussi ceci, des tableaux blancs numériques interactifs dans chaque salle. On peut accueillir ici jusqu'à 34 élèves.
Montant des rénovations, un peu moins de 60 000 euros, mais ce n'est pas suffisant. Parfois, les équipements font tout simplement défaut. Le directeur nous amène au gymnase trop petit aujourd'hui.
D'un point de vue technique, logistique, je ne peux rien faire. Cette année, j'utilise toutes les salles, toute la place disponible. En hiver, par exemple, le gros problème sera le cours d'éducation physique. On ne pourra plus le faire à l'extérieur. Il fait trop froid, mais il n'y a qu'une grande salle et une petite salle de gym. Il ne peut donc y avoir que deux classes qui peuvent avoir cours en même temps. Mais bon, il y a un peu de place dans les couloirs, alors on pourrait y mettre des tables de ping-pong par exemple. C'est un peu compliqué, mais ça se fait.
Au lycée Hoffmann, dans l'hypercentre de Varsovie, il y a aussi embouteillage le midi à la cafétéria. Pour réduire le problème, le lycée pense créer un système de carte électronique, moins de temps passé à la caisse, et les élèves pourraient commander à l'avance leur encart.
Quand les mômes font une démo pourrie, j'ai pas les mots. Quand un je t'aime va avec deux sourires, j'ai pas les mots. J'ai beau courir après le vocabulaire, t'as fait des nouveaux thèmes. Reste ces images dans ma tête pour lesquelles je n'ai pas de mots. Les cicatrices...
En un mot, c'est notre nouvelle chronique du mercredi, un mot intraduisible mais qui nous en dit long sur le pays qu'il utilise souvent dans le langage courant. Cette semaine, on va en Croatie et on vous parle de uhljeb. Disons-le carrément, on parle là d'un planqué qui a un beau poste dans le service public grassement payé, mais qui ne travaille pas ou si peu. En français, on pourrait parler de placard doré. C'est la chronique depuis Zagreb de Giovanni Valle.
Cet été, une école de langues de Zagreb a fait le buzz avec une campagne publicitaire particulièrement réussi. Des affiches placardées un peu partout dans la capitale croate sur lesquelles on pouvait lire la phrase suivante. Le mot « uhljeb » n'existe pas dans la langue anglaise. En deuxième plan, un paresseux en costume cravate levait son pouce, un signe d'approbation. Cela peut sembler assez compliqué à comprendre, mais pas pour un croate. En Croatie, le mot « uhljeb » indique une catégorie bien précise de personnes. Écoutez la définition de Bojan Glavašević, député indépendant au Parlement de Zagreb et linguiste de formation.
Uhljeb. Un uhljeb est une personne qui, par le biais d'un réseau népotiste ou politique, a obtenu un travail quelque part dans l'administration publique locale ou nationale, ou quelque part où le salaire vient du budget de l'État.
Certains dirigent le parc national croate, d'autres deviennent consultants ou chargés de projets au sein des grandes compagnies d'État. Ils peuvent gagner jusqu'à 2500 euros par mois, trois fois plus que la moyenne nationale. Pour les standards croates, en somme, un poste d'uhljeb est quelque chose de très appétissant, comme l'indique d'ailleurs l'étymologie du terme. Bojan Glavašević nous l'explique.
Le mot « lieb » indique une miche de pain. Du coup, l'expression « uhljeb » décrit l'image d'un beau sandwich ou d'un hot dog, à l'intérieur duquel, entre deux tranches de pain, se trouve un endroit bien beurré, avec de la mayonnaise ou que sais-je, et entouré d'ingrédients bien savoureux. Voilà l'explication sémantique de l'expression « uhljeb ».
On l'a compris. « Uhljeb », en croate, c'est un planqué confortablement caché entre deux morceaux de pain moelleux. « Uhljeb », c'est un sport national en Croatie, au point que les journaux en ligne invitent leurs électeurs à élire l'uhljeb de l'année. Et que parfois, on retrouve même des top 10 des uhljebi, les plus corrompus, les plus payés et les moins impliqués dans leur travail. Résultat, beaucoup de Croates, et notamment des jeunes, fatigués par le clientélisme dans leur pays, partent à l'étranger pour chercher un emploi. Voilà pourquoi, pour ces jeunes diplômés qui s'apprêtent à vivre à l'étranger, il est rassurant de savoir que les mots uhljebi n'existent pas en anglais. Depuis quelques années, ce terme est devenu très populaire. La presse dévoile régulièrement des scandales de corruption et face à la pression du public, les partis politiques promettent une lutte ferme contre les uhljebi. Pourtant, selon le sociologue Tomislav Pletenac, la société croate a un rapport très ambivalent face à ce phénomène.
Le problème est le suivant, tout le monde veut être un uhljeb. Lorsqu'il faut le dénoncer publiquement, oui, on dit que c'est un problème, mais on attend tous de dénicher la connexion qu'il faut pour s'incruster dans un endroit où il y a de l'argent. C'est ambivalent, une véritable relation d'amour et de haine, du vrai Freud. Tout le monde veut être un uhljeb et tout le monde est les uhljebi.
Et donc, si on peut pas devenir un uhljeb en Croatie, on quitte tout et on part à l'étranger où, dit-on, ce personnage n'existe pas. Une forme d'expatriation par dépit en quelque sorte, contrairement à ce que laissait entendre la fameuse affiche.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe. À demain.